Alma Mahler, toute sa vie, a eu le goût du spectaculaire et du gros coup.
Jukebox.
L'homme peut-il contrôler sa destinée ? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
À défaut de réécrire le futur chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox vous replonge dans le passé via un texte, des archives et des musiques. Ce soir, l'histoire d'une quête échevelée d'amour d'une héroïne iconoclaste qui aura tracé son sillon vers la lumière en s'approchant des astres de son temps. Trajectoire intime et voilée, impudique et maîtrisée d'une femme qui, dans la vibrante Vienne de l'avant-première guerre mondiale, s'était trouvée à la rencontre d'une foule de génies artistiques et eux, en retour, sous sa coupe. Gustav Klimt, Gustav Mahler, Walter Gropius, Oskar Kokoschka, Franz Werfel, tous s'étaient consumés d'amour pour elle, pour Alma Schindler, si complexe Alma qui, de son caractère tortueux, narcissique et dépressif, allait consacrer son existence à la création et aux artistes de la Vienne de 1879 au New York de 1964, ce soir jouer avec les dieux, l'inconsolée Alma Mahler. On n'entend rien de la ville qui s'étend au-delà des fenêtres encadrées de lourdes tentures. Au cœur de l'UP Upper East Side new-yorkais, sur la 73e rue, une femme se tient dans sa bibliothèque jouxtant son salon de musique, assise à un secrétaire d'époque. Elle est penchée sur des papiers. Parfois, elle lève le nez, contemple les objets d'art qui s'entassent un peu partout et elle note quelque chose. Elle a toujours beaucoup écrit. Écrire, noircir des pages et des pages, creuser, se souvenir, raconter, se raconter. Tout ça d'une écriture rapide, nerveuse, illisible aux non-initiés. Ce jour de 1960, Alma Mahler met la dernière main à sa troisième autobiographie. La lettre d'engagement de son éditeur doit traîner quelque part. À la différence de ses précédents ouvrages, elle écrit celui-ci en allemand. Elle n'a jamais été très bonne en langues étrangères et au moins l'allemand, c'est presque de l'autrichien. Et puis, elle n'a plus l'âge de faire des efforts à 80 ans passés. D'autant qu'elle veut être précise. 350 pages dans la version française qui sera traduite, sa vie vaut bien cela. Affiner, embellir, magnifier encore l'histoire, comme Oscar le faisait lorsqu'inlassablement, il peignait son corps gorgé de désirs. Kokoschka. Ah, Kokoschka, elle l'aura aimé, lui. Mais en retour, qu'avait-elle eu ? Alma, parmi ses archives, soigneusement classées, elle les connaît toutes presque par cœur. Elle ne fait pas qu'écrire, elle fait du tri, jette certains papiers, en brûle d'autres. Alma aime s'emparer de l'histoire, la tordre. Soudain, elle tombe sur une photo prise d'elle récemment au Carnegie Hall de New York en février 1960. C'est une vieille dame, son cou nu, discrètement orné d'un sautoir, émergeant d'une imposante fourrure, sa permanente soignée de vieille dame, mais surtout ses yeux fermés qui disent le bonheur, le plaisir qui est le sien alors, à l'écoute de la symphonie numéro 2 de Mahler, sous la baguette de Bernstein. Considérant la photo, elle rit de ce tour de passe-passe, du masque de la veuve parfaite qu'elle avait offert ce soir-là à l'objectif du photographe qu'elle avait senti s'approcher d'elle. Elle avait fait mine de lui donner ce qu'il cherchait, son âme, l'âme d'Alma, évidemment, la belle affaire.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin.
On est loin, c'est tout.
Madame rêve, ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin,
on est loin.
Madame rêve,
Madame rêve.
Ce corps libéré, exulté, pénétré qu'évoque ici Bachung, ce n'avait pas toujours été celui d'Alma. Bien sûr, il y avait eu Kokoschka et leur passion brûlante, nous y reviendrons. Celui-là, en plus, elle aimait son œuvre, elle la comprenait. Chez Alma, ce rapport libéré au corps n'était pas toujours allé de soi. Dans cette Vienne corsetée, où elle avait vu le jour en 1879, la société restait très conservatrice, la fonction des femmes étant surtout de se mettre au service du patriarcat ambiant. Et d'ailleurs, comme l'écrit Françoise Giroux dans la biographie qu'elle consacre à Alma, dans la Vienne d'alors, une femme honnête n'a pas de corps. Alors, Alma rêve. Depuis qu'elle est gamine, elle ne fait que ça. Un jour, son père lui avait dit « Joue avec les dieux ». son père, Emil Schindler, un petit peintre paysagiste qui avait fait son trou et qui, grâce à son succès, faisait mener à sa petite famille une véritable vie de château, un château où sont données fêtes sur fêtes et où se retrouvent les membres de l'avant-garde artistique de Vienne. Ce conseil de son père adoré est disparu trop tôt alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle l'avait si bien retenu, se voyant très tôt comme un être à part, à mériter. Joue avec les dieux. Enfant, Alma avait découvert la littérature à travers Goethe. Adolescente, elle s'était épris de Nietzsche, de Schopenhauer ou de Stendhal. Dans cette Vienne où bientôt Freud s'occupera des affres névrotiques de la bourgeoisie locale, il règne, à en croire Robert Musil, un climat de joyeux apocalypse. Face à la montée du populisme, la bourgeoisie libérale se détourne de la chose politique et se réfugie dans la jouissance des arts et de la culture comme un rempart au pire. Bientôt s'y imposera une révolution esthétique qu'on appellera la sécession et qui prône une peinture hors des tapis usés des salons officiels. Alma n'échappe pas à l'esprit de son temps. Elle prend des postures intellectuelles, pérorant sur le surhomme de Nietzsche, mais elle est aussi une amatrice de musique, une excellente pianiste qui connaît toute l'œuvre de Wagner et compose, à l'occasion, de petits Lieder. Intelligente, svelte, irrévérencieuse, elle fustige les faiblesses amoureuses de sa mère, petite cantatrice, laquelle s'est remariée avec l'assistant de son père. « On n'épouse pas le balancier quand on a eu la pendule », écrit-elle, cruelle, dans son journal intime que déjà elle tient scrupuleusement. Comme en témoignent les photos, c'est une belle jeune fille, brune, les yeux clairs, le port de tête haut, la pose élégante. Courtisée par des hommes plus âgés, c'est finalement à un jeune peintre qu'elle accorde son premier baiser. Brillant et ingérable, le peintre en question s'appelle Gustav Klimt, celui-là même qui prend alors la tête de la sécession viennoise qui affole les salons feutrés. Ça n'avait été qu'un chaste baiser, mais il avait suffi à retourner les sens du jeune homme à qui Alma avait refusé ensuite toute prolongation du désir, l'estimant sans doute à juste titre infidèle et volage. C'est alors que 2 ans plus tard, en novembre 1901, Alma, 22 ans, est invitée chez une grande figure mondaine de la ville à un dîner auquel a également été convié Gustav Mahler. À 40 ans, âge relativement avancé pour l'époque, Mahler est un compositeur reconnu, par ailleurs directeur de l'Opéra de Vienne. Colérique, il est craint et redouté par les membres de l'orchestre qu'il dirige. Son exigence obsessionnelle, son caractère imprévisible... C'est par ailleurs un type anxieux, compliqué, sujet à de fréquentes migraines et qui sort peu. Le temps d'une soirée, pourtant, toutes ses peurs s'estompent et, fasciné par la beauté et l'indépendance d'esprit d'Alma, il s'éprend de celle dont il pourrait être le père. Elle y voit d'emblée son intérêt. Elle se rêverait chef d'orchestre, elle en a sans doute les capacités. En tout cas, un tropisme poussé pour la musique, elle qui a déjà composé plus de 100 Lieder, ses courts poèmes en langue allemande chantés. La plupart sera détruit pendant la guerre, ceux qui restent démontrent d'honnêtes capacités, comme celui-ci, « By dear East Estrout », d'après un texte de Rilke. « Avec toi c'est bon, les heures timides sonnent comme autrefois, viens et dis-moi un mot d'amour mais pas trop fort ». On entend un portail venant du monde en fleurs, le soir écoute aux fenêtres, gardons le silence, que personne ne sache où nous sommes. Thank you. 1901, Vienne. Ainsi donc, le temps d'un dîner, Mahler est tombé sous le charme d'Alma. Elle, pendant ce temps, ainsi qu'en témoigne son journal, hésite entre ce vieux compositeur puissant et son amant précédent, qui était également son professeur de musique, un certain Alexandre von Zemlinsky, avec qui elle avait entretenu de furtives, quoique appuyées, caresses. Dans son journal, elle écrit au sujet de Mahler « Je ne sais si je l'aime ou si je ne l'aime pas, si c'est le directeur, le chef prestigieux ou l'homme. Que faire ? Et si Alex devenait fort et puissant ? Tout en moi n'est que calcul, froid, clair calcul. » Ces atermoiements en disent long sur le caractère de la jeune femme, très tôt consciente de ses charmes et décidée à en jouer à fond. Mais quitte à jouer avec les dieux, entre Zemlinsky et Mahler, la question est vite réglée. Le second la demande en mariage et les fiançailles sont ficelées le 23 décembre. D'emblée, pourtant, la relation s'avère difficile. Dans la foulée de leur rencontre, Mahler, tout à son propre génie, avait tombé le masque et posé ses conditions dans une célèbre et terrible lettre, 20 pages d'un texte fou, misogyne, rédigé d'une écriture serrée. 19 décembre 1901. Ma très chère Almchi, aujourd'hui, ma chère Alma, je me mets à t'écrire le cœur lourd. En effet, je vais être obligé de te faire de la peine, je le sais, et je ne puis faire autrement. Que tu sois une personne attachante, infiniment attachante, que ton âme soit déjà épanouie, que tu sois un être ouvert, richement doué, parvenu très tôt au sentiment de sa propre valeur, cela ne signifie encore rien pour ta personnalité. Qu'est-ce donc que cette idée fixe qui s'est introduite dans ta petite tête si profondément et si tendrement aimée, qu'elle doit être et devenir elle-même ? Nous parvenons à la source de mes angoisses, au cœur même de mon inquiétude et de mes doutes. Tu écris à toi et de ma musique. Ne t'est-il pas possible de considérer désormais ma musique comme la tienne ? Comment te représentes-tu un tel ménage de compositeurs ? T'imagines-tu à quel point une rivalité si étrange deviendra nécessairement ridicule et sera plus tard dégradante pour nous deux ? Ne crois pas que, dans la relation entre deux époux, je fasse de la femme une sorte de passe-temps chargé malgré tout du ménage et du service de son mari, mais que tu doives être celle dont j'ai besoin si nous devons être heureux, mon épouse et non pas ma collègue, cela c'est sûr. Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crack,
des,
bang,
des,
bang,
et des...
Zip, shabam, pow, blop,
whew. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait,
Vlam,
ça fait,
splash,
et ça fait...
Stop,
ou bien,
bang,
ou... Parfois même un...
Shabam! Pow! Blow! Whew!
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip!
Des...
Clip! Crack!
Des...
Bang!
Des...
Blow!
Et des...
Zip! Shabam! Pow! Blow! Whew!
Viens avec moi par-dessus le building. Ça fait...
Whew!
Quand on s'envole et puis...
Cling!
Après quoi je fais...
Tilt!
Et ça fait...
Shabam, pow, blop, whew! Shabam, pow, blop, whew! Shabam, pow, blop, whew!
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des...
Clip, crack,
des...
Bang,
des...
Blop,
et des...
Zip, shabam!
Agrippe-toi, je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi.
Slack, shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz.
Gainsbourg, comic strip, Car, au fond, ce que Mahler avait exigé d'Alma, c'est bien qu'elle se fonde dans son œuvre. Laquelle, à l'inverse de la chanson de Gainsbourg, était loin de toute légèreté chez un homme marqué par la mort et la tragédie et dont il imprégnait ses monumentales symphonies. Ce à quoi, shebam, pop, blop, whiz, Alma avait acquiescé, trouvant là sans doute quelque sublime posture sacrificielle, et dans la nuit, suivant la réception de la lettre de Mahler, elle écrivait dans son journal l'extrait suivant, lu en 2013 par Marie-Sophie Ferdan pour France Musique.
Vendredi 20 décembre 1901. Matinée en ville. Était faire des commissions avec Else en calèche. Ce matin à la maison, cette lettre. Mon cœur s'est arrêté. Livrer ma musique, abandonner ce pourquoi j'ai vécu jusqu'à présent. Ma première idée fut de refuser. J'ai pleuré, c'était plus fort que moi, car je venais de comprendre que je l'aime. À moitié inconsciente, je me suis habillée pour courir vers Siegfried en larmes. Polak, à qui je l'ai raconté, fut indigné, il n'aurait jamais cru ça. J'ai la sensation qu'une poigne glacée vient de m'arracher le cœur de la poitrine. Maman et moi avons parlé de lui jusque tard dans la nuit. Elle a lu la lettre. J'étais si désemparée. Venant de lui, je trouve ça tellement inconsidéré, tellement maladroit. Tout aurait pu aller de soi, tout en douceur. Mais là, j'en garderai une épine à jamais plantée en moi.
Avant même leur mariage, Alma tombe enceinte. Au retour d'un voyage de noces à Saint-Pétersbourg, ils s'installent dans le 6 pièces de Mahler, entièrement rénové, sur Auenbrugger Gasse, dans une belle bâtisse à 2 pas d'un vaste jardin. Alma découvre néanmoins que, malgré son prestige, son nouveau parti, qui entretient une mère et une sœur, est lourdement endetté. Alma tient les cordons de la bourse, on se serre la ceinture. Elle, qui aime tant s'habiller, s'achète moins de robes et doit refuser des invitations, faute de nouveaux chapeaux. De toute façon, on sort et on reçoit peu. Mahler est un anti-mondain. Autant elle a passé son enfance dans la soie et les salons viennois, autant lui traîne depuis toujours un passé douloureux et pauvre, lui le fils d'un petit cabaretier qui battait sa mère, lui qui a perdu 8 de ses frères et sœurs, bref, Mahler sort rarement. Surtout, et tandis qu'il lui demande de se fondre dans son art à lui, Alma n'aime pas la musique de Mahler, elle n'y comprend rien. Pas un mot, par exemple, dans son journal sur l'adagietto que Gustave compose au moment de leur mariage et dont le torrent d'émotions serait, selon certains, un chant d'amour à son âme chérie. Cet été 1902, Alma s'ennuie en vacances. Mahler lui compose un lied et achève sa 5e symphonie qu'il lui dédie à mon Alma chérie, mon compagnon courageux et fidèle. Ça ne la remue pas plus que ça. Courageux, il faut l'être pour vivre avec Mahler, d'autant que la vie sexuelle du couple ne va pas de soi. Anxieux, Mahler s'en mêle le pinceau. Elle, en retour, sombre dans la frustration, la tristesse, se met à boire. Bien sûr, c'est une maîtresse de maison irréprochable, elle décharge le compositeur du quotidien, mais l'ambiance est lourde. Mahler est souvent en déplacement, Alma ne s'est toujours pas remise à composer, on suppose qu'il le lui interdit toujours. Elle tombe de nouveau enceinte. En 1904, Mahler vient à bout de sa 6e symphonie et, pour la première fois, Alma en aime le résultat, particulièrement tragique, qui sonne comme la défaite du héros, sans doute le double de Mahler. Au retour à Vienne, en septembre, elle apprend que Klimt s'est marié. Dans son journal, elle indique « Ma jeunesse est achevée ». Deux ans plus tard, malheur que son ton de caporal a fini par lui mettre à dos tout l'orchestre, doit démissionner de son poste à l'Opéra de Vienne. C'est alors que survient la mort de l'aînée du couple, Maria, qui succombe à 5 ans d'une scarlatine. La mort d'un enfant, malheur, l'avait justement mise en musique quelques années plus tôt, suscitant alors l'effroi d'Alma. Wenn dein Mutterlein, quand ta petite mère, extrait des Kindertotenlieder, autrement dit des chansons des enfants morts, recueil de poèmes composés jadis par le poète allemand Friedrich Rückert, alors frappé par la perte de deux de ses enfants. Un lied que Gustav Mahler avait donc mis en musique des années avant la perte de leur petite Maria. Un travail qui, et on veut bien le comprendre, avait ébranlé Alma. « Je puis bien comprendre, écrira-t-elle plus tard, que l'on publie de si terribles textes quand on n'a pas d'enfants ou quand on a perdu des enfants. Mais je ne puis comprendre que l'on puisse chanter la mort d'enfants quand, une demi-heure auparavant, on a serré et embrassé les siens, gais et en santé. Je lui ai dit alors, pour l'amour de Dieu, tu peins le diable sur la muraille. » Le diable reviendra se venger 4 ans plus tard, en 1911, lorsque Mahler, à son tour, tombe malade au mois de mars, endocardite avec streptocoque. Le couple vit alors à New York, où Gustav travaille régulièrement pour le Metropolitan. Il rentre précipitamment à Paris, consulter un sauveur. Las, finalement transporté à Vienne, Mahler disparaît à 50 ans le 18 mai, enterrement pluvieux. Mahler qui, comme ce superstitieux l'avait tant redouté, laisse inachevée sa 10e symphonie. Pour Alma, une page se tourne. Elle endosse alors un costume dans lequel elle excellera, elle devient la veuve Mahler. celle face à qui les salles se lèvent, recueillies. Elle deviendra la gardienne du temple. Les derniers temps, elle avait été exemplaire, passant ses nuits au chevet de son mari, dévouée, tendre, attentionnée, du moins en apparence, car celle qui se retrouve à 31 ans veuve avait en réalité pris les devants.
This is what I call freedom.
France Culture, Jukebox, ce soir, Alma Mahler, la dévoreuse des arts. Freedom, The Isley Brothers, 1970. La libération d'Alma du joug de Gustave Mahler, celle-ci l'avait donc orchestrée dès l'été 1910, tandis que Gustave n'était pas encore malade. Elle était allée soigner son ennui et ses nerfs à Tobelbad, station thermale près de Grasse. Au même moment, y réside un jeune Allemand de 27 ans, blond aux yeux clairs, rejeton de la bourgeoisie prussienne, que le médecin lui présente. Ce jeune homme, qui a 4 ans de moins qu'elle, s'appelle Walter Gropius. C'est un jeune architecte ambitieux. Une petite décennie plus tard, il fondera le Bauhaus, une école et un courant qui révolutionnera l'architecture et le design mondial. Pour l'heure, ce n'est qu'un architecte, mais il a déjà des idées très précises sur son art. Ils s'enflamment l'un pour l'autre, sans retenue. Quelques semaines plus tard, Walter écrit à Alma une brûlante lettre d'amour. Sauf que, rappelons-le, à cette date, Mahler n'est pas encore mort, il n'est même pas encore malade. Or, la dite lettre, acte manqué ou esprit sadique, Walter Gropius l'adresse à Gustave lui-même. On imagine la scène, l'ignoble missive décachetée, laissée en évidence sur le piano du salon lorsqu'Alma rentre à la maison. L'explication orageuse qui s'ensuit. Alma, pourtant, tente de rassurer Gustave, lequel évidemment devient en retour maladivement jaloux. Frappé d'impuissance, Mahler s'en va trouver jusqu'à Freud lui-même en Hollande pour une psychanalyse express, néanmoins facturée, et qui ne résoudra pas les choses. Alma tient sa revanche. Tout à coup, le rapport de force s'inverse. Mahler, qui avait castré Alma dans ses volontés musiciennes, s'entiche des leaders composés 10 ans plus tôt par sa femme. C'est trop tard, Gustave. Pendant ce temps, Alma, déjà, rejoint Gropius dans des chambres d'hôtel, jusque dans un train de nuit, Orient Express brûlant, filant la nuit vers Paris. Quand ils ne se voient pas, Alma et Walter s'écrivent presque chaque jour, sauf qu'au désespoir de l'architecte, à peine Mahler expire-t-il enfin, rendant possible leur union, qu'Alma et lui se brouillent. Entre autres, elle s'affronte brutalement à son hypothétique belle-mère qu'elle trouve trop maternante. Gropius et elle se voient encore, mais Alma, au fond, préfère rester encore un peu la veuve Mahler. Ce qu'elle fait à merveille, donnant, sculptée dans des robes en lamé or, des concerts dans son immense appartement. Et puis s'il n'y avait que Walter. Or, rapidement, un autre individu se joint à la mêlée.
After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. Danger boy, you've got a change. Always, always changing your mind. There's a longing in your eye, hard to satisfy. And here's a reason why. 'Cause after you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all.
Après avoir obtenu ce que vous voulez, vous n'en voulez plus. Ainsi chantait Marilyn les courtes vues masculines. Sauf qu'ici, ce sont bien les hommes qui sont à la traîne des désirs d'Alma. Cette année 1912, son deuxième prétendant s'appelle donc Oscar Kokoschka. C'est un jeune dramaturge et peintre de 24 ans, violent, indiscipliné, connaissant Shakespeare par cœur. Il est plutôt laid, mais c'est un artiste prometteur. Sa peinture, brutale et empâtée, fait parler d'elle jusqu'à la cour impériale qui s'en offusque. Alma l'a rencontrée chez un ami qui avait commandé au jeune peintre son portrait. Au cours de la soirée, Alma lui sort le grand jeu, l'extrait de la pièce pour l'emmener l'écouter, elle, lui jouer au piano, la bouleversante mort d'Isolde transcrite au piano par Franz Liszt. On peut ne pas l'apprécier, la trouver calculatrice, fourbe, intéressée. Reconnaissons toutefois à Alma l'incontestable capacité à chavirer les hommes. Le lendemain de cette rencontre, elle reçoit du jeune peintre une missive. « Faites-moi le sacrifice de devenir ma femme en secret tant que je serai pauvre. » À défaut de se marier, tous deux s'enferment dans des huis clos sensuels et brûlants. Alma, sans doute pour la première fois, s'épanouit complètement. À Naples, où ils ont fui, elle est comblée. Comblée par l'amour dévorant, évident du jeune homme envers elle, Kokoschka qui, inlassablement, fait poser sous ses pinceaux le corps encore chaud et engourdi de sa maîtresse. C'est un amour passionnel qui s'accompagne de sautes de voix, de scènes violentes, de bouquets pour étouffer les cris. Sauf que cette fois, Alma croit au génie de Kokoschka et pressent qu'elle peut l'aider. Il la supplie de l'épouser, mais intelligemment, elle se refuse à lui jusqu'à ce qu'il produise son premier chef-d'œuvre. Ce sera « La fiancée du vent », peinture de 1913 où Alma, paisible, dort sur la poitrine de son amant inquiet, portée sur une mer déchaînée dans une sorte de coquillage. Ils emménagent ensemble. Alma, muse étincelante, retombe enceinte, elle plane. Quand, soudain, on sonne à la porte et le colis livré contient le masque mortuaire de Gustave Mahler qu'Alma, perversement, décide d'exposer dans la maison. Kokoschka explose. Quelques jours plus tard, Alma ira avorter. L'histoire du monde, de son temps, semble la laisser indifférente. Elle n'en dit rien dans son journal qu'elle rédige quotidiennement. Et pourtant, de la guerre qui mobilise en 1914 ses deux amants du moment, Walter Gropius, l'architecte, et Kokoschka, le peintre, Alma n'en pipe mot. Seul l'intéresse ses sentiments, ses tourments, ses errances. Cette guerre offre à Alma, redoutable sirène mais indécise comme souvent, le loisir de réfléchir. Car malgré la passion charnelle qu'elle vit avec Kokoschka, elle se lasse. Et puis il y a Walter, l'architecte, qu'elle revoit de temps en temps. C'est d'ailleurs lui qui, au cours d'une permission, vient la trouver en août 1915 et l'épouse. Démobilisé, Kokoschka n'a plus que ses yeux pour pleurer. Il s'exilera à Dresde, où il commandera à une costumière de théâtre une poupée grandeur nature représentant Alma, poupée réalisée en tissu et en laine d'après des instructions très précises délivrées par l'artiste. Une fois la poupée terminée, elle est habillée de lingerie parisienne et de robes. Kokoschka la surnomme la femme silencieuse. Un soir, un grand dîner est donné en son honneur, étrange cérémonie au cours de laquelle le mannequin est exhibé, on allume des torches, on l'arrose de vin, elle finira décapitée. Je suis les yeux de poupée, sa bouche, ses jambes, ses bras, ses grandes veines, l'appât pour chien, ils te veulent vraiment et moi aussi. Je veux être la fille avec le plus gros gâteau, je l'aime tellement, je fais si bien semblant. Un jour, toi aussi, tu auras mal comme j'ai mal.
Yeah.
Doll Parts, la poupée en morceaux. Ceci dit, malgré ce chant de Courtney Love, Kokoschka s'en remettra de sa poupée et refera sa vie avec une autre qui, des années plus tard, se montrera étonnamment bienveillante envers Alma. Archive Olda Kokoschka au micro de Jean Dev sur France Culture en 1995.
Oui, il était jaloux, il voulait absolument l'avoir pour lui. Elle devait faire ceci et ça, elle ne devait pas faire autre chose. Mais c'est vraiment assez extraordinaire. Je trouve que c'est une très belle histoire, ça, parce que c'était pour de sa part quelque chose d'absolu. Et je crois vraiment que la Première Guerre, dans un sens, l'a sauvée dans cette situation. Parce qu'elle voulait s'en aller, n'est-ce pas? Elle voulait rompre.
Mais vous pensez qu'à travers elle, il découvre quand même, non pas l'art, mais le monde de l'art?
Oui, il découvre spécialement, il grows up, il commence à connaître le monde, pas seulement le monde de l'art, mais les gens. J'ai l'impression vraiment que c'était une très bonne école.
D'autant que si la guerre a sauvé Kokoschka des griffes d'Alma, Walter Gropius, lui, est loin d'avoir emporté le morceau. Certes, ils ont avec Alma une petite fille, Manon, qui naît en octobre 1916. Certes, Gropius lui fait parvenir en cadeau un tableau d'Edouard Munch, Nuit d'été sur la plage, tableau dont Alma rêvait. Mais Walter Gropius reste mobilisé. Alma s'ennuie. Dans son journal, elle écrit « Mon amour pour Walter Gropius a fait place à un sentiment conjugal obscur et tiède. On ne saurait mener un mariage à distance. » Rappelons que Walter est à l'époque mobilisé. Or, voici qu'un jour, il revient à la maison, où Alma ressuscite son goût des mondanités. Schönberg, Klimt, l'appartement se change en salon les dimanches. Arthur Schnitzer, parfois, y passe une tête. Surgit alors, par l'entremise d'un autre prétendant, un poète et romancier né 27 ans plus tôt à Prague. Il s'appelle Franz Werfel, c'est le dernier homme de cette histoire. Enfin presque. Werfel, on le compare à Thomas Mann. C'est un jouisseur, beau parleur, causeur, aimant la musique et les opéras de Verdi qu'il chante parfois d'une belle voix de ténor. C'est surtout un écrivain. Elle s'en éprend. Elle mettra 3 mois, toutefois, à le mettre dans son lit, dans le dos de Gropius. C'est alors qu'elle tombe enceinte. De qui est l'enfant? De Walter, qu'elle recroise lors de ses permissions? Du nouveau venu, lequel ne pensait vivre qu'une aventure? Finalement, Gropius, qui vient de fonder le Bauhaus à Weimar, dont Alma ne veut entendre parler, Gropius jette l'éponge et s'efface, non sans élégance. L'enfant à venir, lui, ne survit pas. Quant à Alma, elle emménage donc avec Werfel dès 1919. Voyage, crise, preuve que rien n'est jamais facile. Ils ne se marieront qu'en 1929.
Gone. yes, it's true, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows.
Nico et le Velvet Underground, Femme Fatale, 1967. Comment se réinventer après avoir fait tourner tant de têtes? Comment se contenter du quotidien? La réponse est dans la question, on ne le peut pas. 5 ans après son mariage, nous sommes en 1934 et Alma et Franz Werfel vivent dans une magnifique maison de Vienne qui fait office de salon artistique. Mais elle s'ennuie, elle boit dès le matin. À 55 ans, Alma est encore superbe et ne peut s'empêcher de s'enticher de son confesseur, un jeune prêtre, Johannes Hollensteiner, à qui elle fait si bien perdre la tête qu'il défroque. C'est qu'Hollensteiner n'est pas une simple soutane, on le donne alors futur cardinal de Vienne. Sympathisant nazi, il n'en sera pas moins envoyé à Dachau quelques années plus tard. Entre-temps, Alma s'est ravisée et tandis que la guerre se profile, elle et Werfel vont se réfugier en France en 1938. En 1940, ils sont à Lourdes où le poète s'intéresse à Bernadette Soubirou. Ils gagnent ensuite les Pyrénées et enfin le Portugal, d'où ils embarquent sur un paquebot jusqu'aux États-Unis et Los Angeles où ils s'installent. L'année suivante, en 1941, Werfel remporte un immense succès avec Le Chant de Bernadette, fruit de sa réflexion autour de Soubirou et incarnation de sa fuite miraculeuse d'Europe. Ce roman sera adapté au cinéma et oscarisé. Mais en 1945, Werfel succombe à une crise cardiaque dans leur maison de Beverly Hills. La mort qui avait poursuivi Alma, c'est son drame à elle. Elle, entourée de deuil mais qui n'avait presque jamais assisté aux enterrements de ses proches, pas, en tout cas, à celui de sa première fille, avec malheur. Elle ira, en revanche, en 1935, porter en terre Manon, l'enfant qu'elle avait eu avec Gropius et qui décède à 18 ans des suites d'une poliomyélite. Cette perte qui, plus encore que la première, ravage Alma, elle, l'antisémite contrariée et qui rêvait tant d'un enfant arien. Cette mort affecte également Alban Berg, compositeur et ami du couple, et qui dédie à Manon une sorte de requiem, ce concerto dit « à la mémoire d'un ange » créé l'année du décès de l'enfant.
Je ne crois pas que c'est une femme qui finalement était tellement heureuse et je ne crois pas qu'on puisse parler tellement de réussite. Je crois qu'elle était trop dévoreuse et que le fait de dévorer ne la rendait pas heureuse, c'est tout à fait normal. Et je pense que cette femme mériterait d'être étudiée très à fond parce que c'est tout de même un destin très intéressant et pas, je crois, un destin aussi réussi qu'on pourrait le croire.
Henri-Louis de Lagrange, France Inter, 1989. C'est la fin. À New York, qu'Alma rejoint en 1952, sa vie se fait plus solitaire. À plus de 70 ans, elle n'a plus de Dieu avec qui s'amuser. C'est une veuve replète. Elle occupe l'un des 3 appartements qu'elle possède, gérant les 2 autres au plus près de ses sous, tandis que s'entassent chez elle tant d'œuvres d'art qu'elle doit les éparpiller pour faire de la place. Un jour, Stravinsky se voit ainsi offrir un petit Paul Klee qui, certes, ne vaut alors pas grand-chose. On aperçoit souvent Alma arpenter les rues de la ville, les dialogues de Platon dans une poche, un flacon de bénédictine dans l'autre. Elle n'est plus que la veuve Malheur. En 1962, elle assiste à la recréation de la 8e symphonie de Malheur sous la baguette de Leonard Bernstein. Surtout, elle vit au milieu de ses papiers, de sa mémoire, divague sur les petits juifs, expurge la correspondance de ses amants et mari et, de son propre journal, les passages qui pourraient ternir son auréole. Atteinte d'un diabète qu'elle refuse de traiter, elle meurt le 11 décembre 1964 d'une pneumonie, son unique fille restante à son chevet dans son appartement près de Park Avenue. Ainsi s'en est étalée celle qu'on avait surnommée la veuve des quatre tsars, libre, si libre pour son époque. À la fois bourreau et prisonnière des hommes qu'elle avait aimés, une croqueuse d'hommes, a man eater, comme on disait à New York en 1964. C'est sur ce Man Eater signé Nelly Furtado que se referme ce numéro de Jukebox ce soir, joué avec les dieux, l'inconsolée Alma Mahler. Merci pour ces conseils précieux à Laurence Audras, à lire entre autres Alma Mahler, l'art d'être aimé, signé Françoise Giroud en 1988. Rendez-vous sur franceculture.fr à la page de Jukebox, depuis laquelle vous pouvez retrouver les références des musiques diffusées et exporter en un clic les playlists vers les principales plateformes d'écoute en ligne. Cette semaine, la préparation a été signée Seam Boutata, Amélie Briand-Lejeune Alina et les conseils d'Antoine Vuillose de la discothèque. À la technique, c'était Pierre Monteil, à la réalisation Agnès Catou, au micro à Maurice Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.